Je l'invite de suite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens, nous avions commencé à tirer quelques enseignements sur les compagnons d'œuvre de Paul, sur les 10 qui sont nommés dans cette épître. Il nous reste encore 6 à voir. Alors on va relire les textes. Colossiens, au chapitre 1er, on va lire les 2 premiers versets. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Parce que la seule paix qui demeure ne peut venir que de Dieu. Et chapitre 4, verset 7. Donc là, c'est la fin de la lettre, en fait. Hein. Ce sont les salutations. Et donc, voilà, Paul a écrit une lettre avec différentes recommandations. Et puis, à la fin, il présente les salutations. Donc, verset 7. Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bien comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, pardonnez-moi, et ceux d'Hérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et à Anaphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous sera arrivée de Laodicée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen. Alors, on avait vu... Tous les noms que l'on vient de voir là, c'est véritablement les compagnons de Paul, au sens où on les retrouve dans les autres épîtres. Okay? Donc, ce n'est pas des inconnus, ce n'est pas quelques noms anecdotiques. Derrière chaque nom, il y a une histoire. Alors, on avait vu que Timothée, s'il y a bien quelque chose qui le caractérise, c'est qu'il est... il se laisse enseigner. Hein, on voit que c'est le fils spirituel de Paul, c'est sous Paul qui s'est converti, ça a été le frère qui a été le plus proche de lui. Et c'est Timothée est un exemple de celui qui accepte la formation. Après, on avait vu Tychique. Et Tychique, on avait vu que c'est le frère de la consolation. Hein, c'est au verset 7. On voit que c'est vraiment le frère fidèle, le frère de la tranquillité. C'est le frère qui sera un sujet de bénédiction, un sujet de consolation. On sait que c'est vraiment le frère, voilà, fidèle, intègre. Donc ça, on avait vu ça. Et puis, on avait terminé avec le frère Onésime au verset 9, hein, chapitre 4, verset 9. Onésime, et là, on avait vu que son nom signifie « utile ». Et que nous aussi, là, au travers de chacun de ces personnages, au travers de cette étude, qu'on puisse également tirer des leçons pour chacun d'entre nous, que nous soyons à la fois enseignables, que nous soyons des frères, des sœurs de consolation, des sujets de bénédiction, que nous soyons des frères et des sœurs utiles au service. Et on va voir là, verset 10, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Aristarque. Et Paul dit que Aristarque, il le qualifie comme ça, mon compagnon de captivité. On se rappelle, Paul est en prison. En prison. Et il dit que Aristarque est son compagnon de captivité. On a compris, Aristarque est avec lui en prison. Mais il y a différentes histoires avec Aristarque. Et on s'aperçoit que Aristarque n'est pas seulement celui qui partage ses choses. Mais c'est déjà bien, n'est-ce pas? Quand on est dans les moments difficiles, quand on connaît des moments de lourdeur, quand on peut connaître des moments où on se sent comme prisonnier. Ça nous arrive, non, spirituellement? Tous des moments comme ça dans notre vie, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Eh bien, que le Seigneur nous place des Aristarques à côté de nous. Ou que nous soyons des Aristarques. C'est-à-dire des frères et des sœurs qui seront avec nous. Ils ne seront pas capables forcément de délier les liens, mais ils seront quand même là. Et on s'aperçoit que Aristarque, non seulement là, il est dans les chaînes avec Paul, et dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 29, on voit qu'à un moment, Paul est pris par la foule à Éphèse. Et qui est-ce que l'on voit encore dans cette montée de foule? Aristarque. Lui aussi, il a pris les coups avec Paul, il a été pris dans le tumulte. J'ai envie de dire que Aristarque, c'est vraiment le frère solidaire. C'est le frère, il est bien quand il nous sert, il est là pour servir, il est là, il aide. Mais on s'aperçoit que quand il y a des coups durs, il est encore solidaire. Et ça nous donne aussi des leçons. Parce que de temps, on voit des frères, des sœurs, ils sont utiles quand tout va bien. Et puis quand les choses vont mal, c'est là qu'on peut moins compter sur eux. C'est là que de temps, même quelques cœurs se révèlent. Que Dieu nous garde de ça. Et parmi les compagnons, les serviteurs, les collaborateurs de Paul, il y avait cet homme, Aristarque, qui est pour nous un exemple de, j'ai envie de dire, de solidarité dans les moments difficiles. Après, nous avons, après Aristarque, au verset 10, il nous est parlé d'un certain Marc, même verset, Marc. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Vous connaissez l'histoire de Marc ? Longue histoire en fait, Marc. Longue histoire. Je vous la résume. Lors de son premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas sont appelés à partir en mission. Et voilà que Barnabas a un cousin qui s'appelle, Jean. Mais en fait, on l'a appelé Marc. En fait, il s'appelle Jean, mais on l'a rebaptisé Marc, comme Paul qui s'appelait Saül et comme Pierre qui s'appelait Simon. Voilà, il y avait une tradition comme ça où il s'appelait des noms. Et donc, de temps en temps, on l'appelle Jean-Marc, Jean ou Marc. Mais ça, c'était juste pour vous avoir. Mais effectivement, Barnabas avait un cousin qui s'appelait, allez, on va dire Jean-Marc. Et ils sont partis en voyage ensemble. Et voilà que, on ne sait pas pourquoi. C'est pas rien quand même de partir en mission. Et voilà que, on ne sait pas pour les raisons, mais Marc les abandonne en cours de route. L'histoire sera tellement marquante, et peut-être que les raisons n'auront pas été suffisamment justifiées, que quand Paul décidera de faire son deuxième voyage missionnaire, en pensant repartir encore avec son collaborateur Barnabas, Barnabas dira « Oh bien sûr, il n'y a pas de problème, prenons Marc avec nous !» Et Paul dira « Non, non, on ne part pas avec Marc, il nous a déjà abandonné dans le premier voyage, on ne va pas le prendre !» Et là, il y a eu querelle. Querelle entre ministères, querelle entre pasteurs. Parce que voilà, que ce Marc-là, l'un voulait le prendre et l'autre ne voulait pas le prendre. Pas facile quand même, hein, quand on a l'impression d'être un peu l'objet de désaccords, à tel point que dans ces conditions-là, et vous le lirez, Paul décide de partir avec Silas d'un côté et Barnabas partira avec un collaborateur ailleurs et on n'entendra plus parler. Sachez que cette histoire, c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que Paul en a voulu à Marc. Les raisons, on ne sait pas. Est-ce qu'il était trop immature? Est-ce qu'il n'était pas prêt? Est-ce qu'il s'est, pardonnez-moi l'expression, dégonflé dans le... On ne sait pas. Mais quand même, ce qui est beau, c'est que entre cette histoire qui s'est passée, le premier voyage et cette lettre, il y a presque 10 ans qui se sont passés. 10 ans, c'est beaucoup, hein? 10 ans. Mais malgré tout, 10 ans après, Paul parlera de Marc comme étant un de ses compagnons de service. Alléluia. Il nous arrive aussi. Peut-être, ça a pu arriver à certains, et ça peut nous arriver, que Dieu nous en garde, d'avoir des erreurs de parcours. Ou peut-être on s'est engagé avec le Seigneur et puis on a lâché prise. Avec le Seigneur, on peut toujours recommencer. Alléluia. S'il retrouve notre cœur, nos dispositions, notre engagement, il y a toujours un redémarrage avec le Seigneur. Et plus tard, dans l'épître de Timothée, 6 ans encore après ça, Paul parlera encore de Marc. Alléluia. Donc que nous ne perdions pas courage. Et sachant que Marc, c'est lui qui a écrit l'évangile. C'est ce Marc-là. C'est ce même Marc-là. Marc, en fait, sachez qu'en fait, Marc, celui qui a écrit les évangiles, ce disciple-là, en fait, il a fini ses jours auprès de Pierre. Et on pense que c'est que quand on lit l'évangile de Marc, en fait, ce sont les souvenirs, le récit que Pierre a fait à Marc et que Marc les a mis sur papier. Donc, effectivement, il a mal commencé dans le service, le frère. Mais merci, Seigneur. Quand on en veut avec le Seigneur, quand on est bien disposé, le Seigneur est capable de se servir de nous plus tard. Alléluia. Alors, il y a Marc. Et puis, au verset 11, il nous est parlé d'un homme, Jésus. Bon, pas le Jésus de Nazareth qu'on connaît. D'ailleurs, lui aussi, on a changé son nom. Appelé Justus. Alors, il nous est dit juste qu'il nous salue. Et lisez après. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Alors, il ne parle pas seulement de Justus, il parle de tous ceux qu'il a dit avant. Vous connaissez la vie de Justus ? Personne ne connaît la vie de Justus. Ah mince, tous les autres, il y a une histoire et lui, il n'y a pas d'histoire. Et bien ça, c'est ce que j'appellerais l'exemple des indispensables anonymes de l'Église. Des hommes, des femmes, qui font partie de l'Église. Or, ils n'ont pas un nom connu, mais ils sont connus de Dieu. Ils sont un sujet de bénédiction. Paul le dira, ce sont les seuls qui travaillent avec moi. Et ils ont été pour moi un sujet de consolation. Justus, on ne sait pas, il n'a peut-être pas fait autant de grandes choses que les autres, dont on a déjà parlé. Mais ce qui est certain, c'est que dans le cœur de Paul, Justus était un frère fidèle, un qui a été un sujet de consolation, un frère qui travaille avec lui à l'œuvre de Dieu. Et dans l'Église, il y a beaucoup de Justus, des frères, des sœurs. Oh, c'est peut-être pas eux qu'on va voir prêcher, c'est peut-être pas eux qui vont chanter, c'est peut-être pas eux dont on va entendre parler. Mais ce sont les indispensables anonymes de l'Église. Sans eux, l'Église n'avancerait pas. Sans eux, il y aurait tant de tâches qui seraient négligées. Sans eux, il n'y aurait pas la bibliothèque. Sans eux, il n'y aurait pas le travail auprès des enfants. Sans eux, il n'y aurait pas le ménage. Sans eux, il n'y aurait pas la technique. Sans eux. Et peut-être même que déjà au travers de ces services nommés, il y en a même d'autres qui travaillent sans qu'on le sache. Mais ils font un travail anonyme, secret. Ils appellent, ils vont voir les frères, les sœurs. Ils font un travail à l'œuvre de Dieu, un travail d'évangélisation qui n'est peut-être pas connu de l'Église, mais qui est efficace dans l'œuvre de Dieu. Et l'Église a besoin de ces anonymes, de ces gens qui sont seulement peut-être connus de l'Église, mais qui ne sont pas reconnus de grands noms, de renom, comme on dit. Mais l'Église a besoin de ces hommes comme Jésus, comme Justus. On ne connaît rien d'eux, mais en tout cas, ils travaillent à l'œuvre de Dieu. Amen. Et n'oublions jamais qu'on ne travaille pas pour une Église, on ne travaille pas pour un homme, on travaille pour le Seigneur. Et Jésus a dit qu'il est fidèle et juste pour nous récompenser. Amen. Alors, Justus nous parle de cet anonymat qui est aussi notre caractéristique. Et puis, il nous est parlé au verset 12 de Épaphras, qui est des vôtres, qui vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous et pour ceux de Laodicée et Hierapolis. Alors, on avait vu la dernière fois que Paul n'est jamais allé à Colosse. Ce n'est pas lui le fondateur de l'Église, mais c'est Épaphras qui est le serviteur. D'ailleurs, au chapitre 1er, je crois que c'est au verset 7, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Et en fait, Épaphras, c'était le responsable de la communauté de Colosse. Je voudrais juste attirer votre attention sur trois critères. Donc, effectivement, il est le responsable de l'assemblée. Et regardez les termes et les qualités que Paul emploie pour parler de lui. Il dit qu'il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Un ministère local, qu'il ait une grande ou une petite assemblée. On se rappelle que Laodicée, c'était une petite communauté. Hein. On avait dit que c'était un peu comme Ancenis, entre deux grandes villes. Il y avait Laodicée et Hiérapolis qui étaient deux grands pôles, et Colosse était devenu une bourgade, comme Ancenis entre Angers et Nantes. Mais malgré tout, on voit que cet homme, même s'il était responsable d'une petite communauté, Paul dira de cet homme qu'il combat dans la prière. Amen. Quelle que soit la taille de l'église, quelle que soit la responsabilité du nombre d'âmes, un responsable local, un serviteur de Dieu, doit être fervent d'esprit. Il doit combattre dans la prière. Il doit être un homme de prière. Alors, pas seulement de prière comme ça, mais on le voit aussi qu'il a une vision. Il prie pour l'église, dans quel but ? Afin que les chrétiens tiennent bon, que ce soit des hommes, des femmes, faits, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. Le deuxième critère que Paul perçoit dans le caractère de Epaphras, merci, c'est qu'il voit qu'il a une vision pour les chrétiens. Il veut que les chrétiens soient des hommes qui fassent la volonté de Dieu. Il veut que ce soient des hommes et des femmes fermes. C'est pas seulement un homme qui fait des réunions, mais il a une vision pour les chrétiens. Il veut que les chrétiens deviennent des hommes et des femmes matures. Il ne suffit pas de prêcher, il faut avoir aussi une direction, une volonté, une projection. Et le troisième point que Paul relève dans le caractère d'Epaphras, il le dit, je lui rends témoignage, qu'il a une grande sollicitude pour vous. Quand j'ai regardé les différentes traductions, c'est traduit par, pas forcément par le mot sollicitude, mais à d'autres endroits, c'est écrit qu'il il travaille avec zèle. Il a de la passion sincère pour vous. Il est engagé, il se donne, il est entièrement préoccupé par la tâche. Et là, on voit le cœur. C'est un homme de prière, un homme de vision et un homme de cœur. Il se donne, il se fatigue à la tâche. Que Dieu nous donne dans chaque église locale d'avoir des compagnons d'œuvre comme ça. Amen. Qui ont une vision pour l'église. Qui veulent non pas seulement faire de l'événementiel, mais que l'église soit des hommes et des femmes faits. Que ce soit un frère qui combat dans la prière pour le soutien de l'église. Et que ce soit un homme qui soit à la tâche, à l'œuvre, au travail, avec zèle et avec persévérance. Après, il nous est parlé au verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Alors, je ne sais pas si c'est une ironie du sort. Dans le même verset, il nous est parlé de Luc, le médecin bien-aimé, et de Démas. Luc, on le connaît. C'est lui qui a écrit le quatrième évangile. Et c'est lui aussi qui va écrire les Actes des Apôtres. C'est pour ça qu'à un moment, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est écrit « il » et à un moment « nous ». Parce qu'à un moment, Luc a participé au voyage missionnaire avec Paul. Donc, Luc a participé au voyage missionnaire. Et Luc, vous savez, c'est l'un des seuls. Et d'ailleurs, Paul le dira dans la dernière épître, la dernière lettre qu'il écrira en 66, après Jésus-Christ. Là, on est dans les années 60. C'est la dernière lettre. La dernière lettre, c'est la deuxième épître à Timothée. Et Paul dira, Luc seul est avec moi. Et on voit là, au travers de Luc, l'homme qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que je disais que c'était étonnant de voir Démas ? Parce que Démas, c'est complètement l'opposé. Oh, Démas a bien parti, ça fait partie des compagnons. Mais je vous parlais tout à l'heure de la deuxième épître à Timothée, dans le même verset, où Paul disait que Luc seul est resté avec moi. Il dira également, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Quelle tristesse ! Dans le même verset, dans cette même salutation, 6 ans avant, Paul parlait de Luc et de Démas comme des collaborateurs. Et l'ironie du sort, c'est que 6 ans après, Paul reparlera de ces deux personnes, l'un étant resté fidèle avec lui et l'autre l'ayant abandonné pour les plaisirs de ce monde. J'espère que chacun d'entre nous, nous serons des Lucs jusqu'à la fin. Amen. Mais veillons, parce que je pense que Démas avait aussi un appel, il avait dû faire des expériences aussi avec le Seigneur. Il s'était engagé dans l'œuvre avec Paul, c'est pas n'importe quoi. Ils ont dû voir des choses extraordinaires, ils devaient être engagés. Et pourtant, il a lâché. Pas pour la gloire, pour les plaisirs de ce monde, pour les vanités de ce monde. Si c'est arrivé aux autres, nous ne croyons pas plus forts et meilleurs, hein, que nous apprenions au travers de ces exemples à veiller également sur nous. Et puis il nous est parlé après de Archip. Je crois que ce sera le dernier. Au verset 17. Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Archip. Alors déjà, je crois que ça, on pourrait se presque terminer par un encouragement encore pour nous. Archip, vous savez ce que c'est? Archip, ça veut dire maître du cheval. Archip. Le cheval, c'est symbole de quoi? Du courage. Maître du cheval. Le cheval, c'est le symbole du courage. Parce qu'on se sert souvent, on parle souvent du cheval, parce que c'est la monture sur laquelle on peut aller et avec laquelle on va à la guerre. Et c'est vrai que le cheval n'a pas peur d'aller à la guerre. Il fonce. On ne va pas faire la vache avec d'autres animaux. Et le cheval, on sent il a cette force, il a cette impétuosité, il a ce courage. C'est pour ça qu'on prend le cheval comme étant le symbole du courage. Maître, pardonnez-moi maintenant de faire le lien, maître du courage. Que le Seigneur nous donne aussi d'être maître de notre courage pour servir le Seigneur. Et des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses et on manque de courage, n'est-ce pas? Oh non, on a, comme on pourrait dire, on a la main lâche. On n'ose pas. Je suis un peu fatigué. J'ai pas trop envie. Mais que nous soyons maîtres du courage. Que nous soyons là, des hommes et des femmes qui soient incapables de prendre notre courage à deux mains. Vous connaissez cette expression? C'est-à-dire qu'on a le courage, mais il faut un peu se secouer pour aller plus loin. Que nous soyons des archipes, que nous soyons maîtres de notre courage pour faire la volonté de Dieu et pour littéralement faire nous-mêmes dans notre vie ce qui était conseillé à cet homme, de bien remplir le ministère que Dieu nous a donné. Ministère, c'est quoi? C'est le service. C'est le service. Et on est tous appelés à servir le Seigneur à la mesure de ce que l'on peut faire, à la mesure de ce que l'on sait faire, à la mesure de ce que l'on peut faire, à la mesure de des orientations qui nous sont présentées. Mais réfléchissons, on a tous un service à faire dans l'Église, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Mais faisons-le, remplissons-le bien. Ne soyons pas des chevaux peureux, mais apprenons à être comme Archip, à prendre garde au ministère que nous avons reçu dans le Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui place des choses dans notre cœur afin de bien le remplir. Amen. Que tous ces serviteurs nous servent pour nous de leçons, d'exemples, et que à cette liste-là puisse y avoir aussi nos noms, Mamie, Mireille, Lucien, Joël, etc., etc. Et que surtout au ciel, lorsque nous rentrerons dans la gloire, le Seigneur puisse nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Amen.